Salut tout le monde, c'est Caroline. J'espère que vous allez bien. Là, c'est pour le plaisir des oreilles et du cerveau, qui d'ailleurs relie à peu près notre corps entier. Donc, c'est l'influence aussi sur une santé globale. Donc oui, la musique et le cerveau. Le vrai du faux. Et si l'on part de Mozart et du fameux effet Mozart à l'oreille absolue, les effets de la musique sur le cerveau, attestés par les chercheurs, souffrent de nombreux a priori. Qu'en est-il véritablement ? Tour d'horizon avec la neuroscientifique québécoise Isabelle Peretz. Soi-disant, écouter Mozart rend plus intelligent. Faux ! Mais seulement après 10 petites minutes d'écoute d'une œuvre de Mozart, notre QI mental augmenterait. Et oui, c'est en 1993 que M. Francis Rocher et son équipe de chercheurs californiennes lancent l'hypothèse qui se répandra ensuite comme une traînée de poudre et donnera naissance au mythe le plus connu, celui de l'effet Mozart. Rappelons les faits. Dans la prestigieuse revue scientifique américaine Nature, Rocher publie une étude qui démontre qu'après seulement 10 minutes d'écoute de la sonate pour deux pianos en ré majeur, de Mozart, les adolescents soumis à l'expérience arrivent à mieux résoudre des tâches d'intelligence spatiale. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Mozart est servi à toutes les sauces. Rats et plantes y passent. Les femmes enceintes et les nouveau-nés reçoivent des compilations des œuvres de Mozart dans les maternités. Et certains États américains vont jusqu'à obliger des structures publiques d'accueil de la petite enfance à diffuser du Mozart quotidiennement. Le marché des supports audio estampillé Mozart. Censé rendre plus intelligents, les enfants et les adultes explosent. En même temps, la controverse montre. De nombreuses études successives contredisent les résultats de Rocher. Pourtant, le mythe de l'effet Mozart a la vie dure. Qu'en est-il véritablement ? Mozart, Bach ou Michael Jackson, c'est la musique que l'on aime qui améliorera nos facultés cognitives. Donc de la connaissance en général. Parce qu'elle nous procure du plaisir, explique Isabelle Peretz. Et d'ailleurs, elle a un livre « Apprendre la musique, nouvelle des neurosciences ». Et plus important encore, si l'écoute de la musique ne laisse pas notre cerveau indifférent, la pratique musicale aura un impact démultiplié sur nos performances intellectuelles. La chercheuse cite plusieurs études sur différentes populations d'élèves, afin de faire des statistiques plus ou moins jeunes, qui, après avoir suivi un enseignement musical, piano ou chorale à l'école, ont un taux de réussite plus élevé dans toutes les matières évaluées. Donc, elle dit, « Apprendre à faire de la musique est un atout quand l'activité fait partie de l'éducation générale, et cela depuis l'âge de 6 mois jusqu'à la fin de l'adolescence. La musique favoriserait les facultés intellectuelles et sociales de l'enfant, mais seulement si elle est pratiquée en plus, et pas au lieu d'une éducation générale. » Conclut, « Tous les musiciens sont bons en maths. Eh bien, nous apprenons que non. » La musique agit sur des tas de choses sur le cerveau, mais pas les mathématiques. Il y a déjà 2500 ans, Pythagore considérait la musique comme une science mathématique, au même titre que l'arithmétique, l'astronomie et la géométrie. Au Moyen-Âge, la musique a une place de choix parmi les sept arts de l'enseignement, aux côtés des disciplines littéraires, de l'astronomie, de la géométrie et de l'arithmétique. De nombreux compositeurs à travers l'histoire se sont inspirés des mathématiques pour théoriser ou composer de la musique. Et Jean-Sébastien Bach en est le plus illustre exemple, imbriquant la théorie des nombres et des procédés mathématiques dans ses nombreuses compositions. La plus célèbre étant la fugue de l'offrande musicale. Mais le contraire est aussi vrai. Les scientifiques, les physiciens, les mathématiciens peuvent être excellents musiciens. Encore un illustre exemple. Albert Einstein, qui était un violoniste hors pair. Mais cela veut-il forcément dire qu'une prédisposition pour la musique implique une meilleure compréhension des mathématiques, comme on a tendance à le croire ? Mais pour Madame Peretz, il s'agirait de deux formes d'intelligence distinctes. Musique et mathématiques partagent certains mécanismes écrits, tels. Tout comme le langage de la musique partage plusieurs mécanismes. La considération en bloc de facultés ou de formes d'intelligence, comme la musique et les mathématiques, facilitent la comparaison, mais pas nécessairement la compréhension de leurs mécanismes d'opération. Mais la musique fait du bien, ça c'est vrai. Vous écoutez votre morceau préféré des milliers de fois de suite, éprouvant à chaque fois des frissons dans tout le corps ? Cette sensation traduit parfaitement le rapport que la musique entretient avec nos neurones. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous passez des heures entières scotchées à vos casques? Pourquoi vous écoutez à répétition la chorale après une longue journée de travail? Parce que la musique fait du bien. Et c'est prouvé par le cerveau. Nous y reviendrons, car il y a un lien entre cerveau et émotion qui diffuse des effets plaisants. Et d'ailleurs, dit-elle, le plaisir ressenti vient de la sécrétion de la dopamine dans les circuits de la récompense. La dopamine est le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, de même qu'il est sécrété au moment d'un bon repas, par exemple, mais aussi sous l'emprise des drogues ou pendant le sexe. Si vous vous demandez, est-ce que la musique procure le plus de plaisir dans la vie ? On vous dira que la musique vient juste après le sexe et le soleil, et bien avant la nourriture et le sommeil. C'est dire l'emprise que la musique exerce sur le cerveau. Autant en profiter, c'est gratuit, ou presque. Socialement, valorisant, excellent pour la santé et totalement légal. Devenez addict. Pour devenir musicien, tout se joue avant 3 ans. Faux. Dans la course de la performance, c'est le mythe qui a le plus hanté les nuits des jeunes. De l'éveil musical in utero à l'exposition musicale prénatale, la musique fait une entrée de plus en plus précoce dans la stimulation des enfants. Il faut faire vite. Avant 3 ans, les facultés cognitives sont à leur apogée. Si l'on loupe le coche, le sort de notre enfant sera scellé à jamais. Il ne deviendra pas musicien. Mais c'est faux. Tout au long de notre vie, nous allons nous développer. Grâce à la musique, elle va résonner en nous. Et il y a vraiment des styles particuliers que prouvent certaines études, notamment les musiques actuelles, les musiques anciennes, classiques, mais pas que. Ça peut décupler nos sens et d'ailleurs enrichir nos neurones, comme certains aliments que je vous présenterai très bientôt pour, malgré la trentaine passée, continuer à nourrir nos neurones. Cette croyance puise des origines notamment dans la théorie des périodes critiques de l'apprentissage, ces phases du développement cognitif de l'enfant où certaines acquisitions sont plus fluides, parce que prioritaires. Par exemple, à la naissance, le bébé naît avec une prédisposition pour apprendre toutes les langues du monde, capacité qui déclinera au cours de la première année de vie en fonction des traits pertinents de sa langue maternelle. Mais cela ne veut pas dire que le bébé perd toute faculté de discrimination sonore par la suite. Les récentes découvertes des neuroscientifiques nous rassurent sur ce plan. La plasticité cérébrale, cette capacité du cerveau à se modifier et réorganiser ses connexions sous l'effet des expériences et des apprentissages, perdure toute la vie, comme je vous le disais. Autrement dit, contrairement à ce que l'on croyait, il y a encore quelques années, on peut produire de nouvelles connexions entre nos neurones, même à l'âge avancé. 4 mois d'apprentissage formel du piano, écrit Isabelle Peretz, avec l'apprentissage de la lecture, améliore non seulement l'humeur, mais les activités dites exécutives, telles que l'attention et la planification chez les 70 ans. À noter aussi que l'apprentissage de la musique a un effet protecteur sur le cerveau. Les musiciens sont moins affectés par le déclin des facultés auditives provoquées par l'âge, par exemple. Si une initiation musicale précoce suscite effectivement un apprentissage plus rapide, ne nous interdisons pas, on peut redevenir musicien à n'importe quel âge de la vie. Alors, dit-on, on a du talent ou on n'en a pas? Faux. On a du talent ou on n'en a pas, c'est la phrase qui tue dans l'œuf tout projet du musicien amateur. Y a-t-il un gène pour la musique? Quel est le rôle du talent? Existe-t-il, à l'instar de la bosse des mathématiques, une bosse du musicien? Eh bien, nous ne guettons plus les protubérances sur le crâne pour déceler une prédisposition naturelle, comme pouvait le faire Franz-Joseph Gall, contemporain de Mozart et initiateur de la phrénologie. La bosse du crime, la bosse des mathématiques et la bosse de la musique sont classées parmi les accidents de l'histoire de la science. Il n'empêche que nous ne pouvons pas, nous sommes tous égaux devant l'apprentissage de la musique et c'est dans notre capital génétique qu'il faut en chercher l'origine. Pour la musique, comme pour d'autres disciplines artistiques, un brin de talent n'est pas de trop. À investissement égal, en termes d'heures ou d'années de pratique, les plus doués réussiront mieux. Mais comparons le talent musical aux arbres. Les plus grands ne seront pas ceux qui ont reçu le plus d'eau, mais ceux qui ont le meilleur gène, écrit. Mais en ce qui concerne la musique, le talent a été généreusement distribué. Les études montrent que 95% de la population a toutes les prédispositions pour atteindre un excellent niveau, à condition de s'y investir suffisamment. Le point du musicien sans l'oreille absolue. C'est faux. Il s'agit d'un fantasme par excellence de tout apprenti musicien, cette faculté impressionnante de pouvoir associer un son joué au nom de la note lui correspondant semble pour certains un graal inaccessible. Il fut un temps où l'oreille absolue était un critère de sélection à l'examen d'entrée au conservatoire. Nombreux sont les musiciens à entretenir le souvenir frustrant des dictées musicales où une personne sur 20 répondait du tac au tac et monopolisait toute l'attention du professeur, alors que les autres calculant mentalement les intervalles joués pendant de longues minutes. Mais ce que nous ne savons pas encore, c'est que beaucoup de personnes pourvues d'une oreille absolue se passeraient bien de ce don. La traduction systématique de tous les sons du quotidien en notes de musique, sirène des pompiers, sonnerie du téléphone, tonalité de l'ascenseur, peut entraîner une gêne. Assister à un concert dans lequel on perçoit un infime décalage dans l'accord des instruments peut devenir une torture. Non seulement avoir l'oreille absolue n'est en aucun cas le gage d'un talent musical exceptionnel, mais en plus seulement 10% de musiciens occidentaux en sont pourvus, donc c'est très rare. Mais d'où vient-elle cette oreille absolue ? Selon Isabelle Perrette, c'est une différence structurelle du cerveau, présente à la naissance, résultat de l'expression d'une multiplicité de gènes qui n'a pas d'impact sur les défauts cognitifs de l'individu, une forme de synesthésie, d'association involontaire entre un son et un mot qui vient de l'activation du connexion entre réseaux neuronaux adjacents qui, dans un cerveau normal, sont inhibés, nous apprend la chercheuse. Alors même si vous n'avez pas l'oreille absolue, que vous avez l'âge critique de 3 ans et que vous n'avez jamais eu la moyenne en maths, vous avez certainement assez de talent pour vous lancer, Mozart ou pas, dans la musique, et votre cerveau vous en remerciera toute votre vie durant. Et donc, le cerveau et le corps. Prochaine chronique. Merci pour l'écoute.